BFM Business, la librairie de l'écho, Emmanuel Lechypre.
Bienvenue dans la librairie de l'écho, l'émission de BFM Business qui vous offre chaque semaine le meilleur de la littérature économique. Alors c'est la dernière émission de la saison, 12e saison de la librairie de l'écho, et je crois même que l'année prochaine nous fêterons la 500e de l'émission. Mais évidemment il était hors de question de vous laisser partir en vacances sans une liste de conseils avertis pour votre lecture estivale. Autour de moi, évidemment, ceux que vous retrouvez avec plaisir tout au long de l'année, nos chroniqueurs, Christian Chavagneux, éditorialiste alternativeéconomique.fr et le spécialiste des livres à Alter Echo, Jean-Marc Daniel, professeur émérite à l'ESCP Business School, président et critique attitré de la Société d'économie politique, Dorothée Duron, qui est la cofondatrice du cabinet Blenders, et puis nos journalistes de la rédaction, Frédéric Simotel pour la première partie de l'émission, ce sera Annalisa Capellini pour la deuxième partie. Évidemment, vous nous retrouvez, Librairie de l'Écho, sur les réseaux sociaux pour avoir la liste détaillée de tous les livres qu'on va vous recommander dans l'émission, et il va y en avoir. Allez, c'est parti pour les grands thèmes qui ont façonné ce premier semestre. Les amis, premier grand thème, l'intelligence artificielle, et puis l'aspect surtout philosophique. Est-ce qu'elle va nous libérer ou nous asservir? Et là, on commence très fort avec vous, Dorothée Duron, puisque vous avez choisi de nous parler de Magnifica Humanitas du pape Léon XIV.
Oui, et c'est une lecture vraiment que je recommande à tout le monde. Il y a beaucoup de choses à lire sur l'IA, mais c'est toujours rentré par l'industrie, par l'optimisation, oui, par les grands équilibres économiques. Là, on passe à un autre niveau, une réflexion. Alors, c'est intéressant parce que Léon XIV a choisi son nom de pape Léon en référence à Léon XIII, qui était le premier à avoir ouvert le dialogue social entre l'Église et le monde et la technique au moment de la révolution industrielle. Ce qui est intéressant dans ce livre, c'est qu'il remet l'humanité au cœur du questionnement. C'est-à-dire qu'il identifie tout au long du livre quels sont les grands risques. Le problème de la neutralité ou non de la technique, est-ce que ça a une influence d'intelligence artificielle, la fin de la vraie vérité, puisque tout peut être transformé et repensé différemment. Et finalement, il égrène toutes ces problématiques de le risque de l'homme augmenté, enfin, pourquoi on a besoin d'augmenter l'homme, pourquoi on ne prend pas ses défauts tels qu'ils sont en tant qu'humain. Et derrière, il ouvre des possibilités en disant, en fait, c'est pas, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de jugement de valeur sur est-ce que c'est bien l'IA ou est-ce que c'est pas bien l'IA, mais plutôt, il ne faut pas oublier, quand on pense à l'IA, l'humain, la dignité humaine. Et en fait, cette approche qui est finalement très holistique et qui fait le lien entre tout ce qui nous interroge tous sur l'IA, il est extrêmement intéressant parce qu'il permet de voir plus haut. Et j'ai lu, il n'y a pas très longtemps, un article où on avait mis tous les agents IA pour discuter ensemble. Pour voir, il y avait 130 agents IA, on les a fait discuter ensemble, et au bout de quelques heures de discussion, ils ont créé une religion ensemble. Et donc, je pense que c'est pas inintéressant, quand même, de lire ce que dit le pape, qui a 2000 ans d'expérience de l'humanité, en sachant que des IA, quand elles parlent ensemble, leur première chose, c'est d'essayer de se trouver un espèce de tronc commun, qui est la religion.
Et un peu dans la même veine, moi, il y a un livre qui m'a interpellé, c'est celui de la philosophe Gabrielle Alpern, ça s'appelle IA et l'homme créé à Dieu. Et alors, elle dit, elle part de l'idée que, évidemment, on n'arrête pas de répéter que l'intelligence artificielle va remplacer l'être humain, et elle se dit, mais finalement, le sujet, c'est peut-être, et si c'était pas l'être humain que l'IA allait remplacer, mais Dieu, parce que ce qu'elle constate, c'est que finalement, ça n'est pas tant notre humanité que l'intelligence artificielle essaie de plagier que l'omnipotence et l'omniprésence de la religion, du divin, puisqu'elle nous dit finalement qui est toujours disponible, prêt à répondre à toutes nos prières, à toutes nos angoisses, à toutes nos questions avec bienveillance, à part l'intelligence artificielle, eh ben, c'est Dieu. Voilà. Alors, on ne pouvait pas parler d'intelligence artificielle sans demander à Frédéric Simotel quels étaient ces livres références en la matière.
Oui, livres références. Voilà, c'est surtout pour tous ceux qui entendent beaucoup parler de l'IA, voilà, dans nos différentes émissions, puis qui voudraient en savoir un peu plus, mais sans rentrer quand même dans tout le jargon technique, parce qu'on peut très bien, très vite tomber. On parle aujourd'hui de l'IA agentique, hein, ces agents autonomes. Ben là, il y a deux ouvrages. Alors, le premier avec quelqu'un qu'on connaît très bien, c'est le Périlia de Gilles Babinet. Gilles Babinet, c'est ce multi-entrepreneur, voilà, qui a été président du Conseil national du numérique et aujourd'hui qui dirige ce qu'on appelle les cafés IA, qui sont des centre de formation pour justement le grand public, pour que tout le monde s'acculture à l'IA. Donc voilà, donc il a sorti cet ouvrage qui se lit. Alors, c'est pas par rapport à leurs écritures, mais ça se lit assez facilement. Donc je vous les conseille. Il aborde plusieurs sujets, à savoir, c'est un avertissement un peu anthropologique et politique hein, autour de l'IA, donc un peu ce que l'on vit là, mais ça permet de prendre du recul par rapport à nos usages quotidiens d'IA, de ne pas tomber justement dans cette paresse hein, de se dire je pose des questions à l'IA et puis voilà, je réfléchis plus, comprendre un peu les risques de dépendance, de manipulation algorithmique et puis réfléchir à notre humanité. Ça, c'est le premier livre. Et le deuxième, c'est Yves Maître, ouais. on le connaît bien aussi.
Qu'on a reçu dans la librairie.
Oui, qu'on a reçu dans la librairie. Il vient souvent dans Tech & Co. C'est un ancien dirigeant chez Orange, chez HTC. Donc lui, connaît très bien ça. Et lui, descend. Alors lui, c'est un ouvrage beaucoup plus grand public, je trouve, qui explique. Alors son livre s'appelle Arrêtez de dire bonjour à votre IA. En gros, il nous explique attention, quand vous parlez une IA, vous parlez un algorithme. Donc ne vous y perdez pas, mais par contre, essayez de cultiver un peu d'humanité dans le lien que vous allez mettre en place. Et il donne, ce qui est intéressant dans son livre, c'est qu'il donne tout un tas d'exemples. Alors, pour les techniciens, vous serez déçus parce que c'est pas un livre qui descend dans la technique. Par contre, pour comprendre un peu comment parler à son IA, pour quelques, c'est un peu pédagogique. Bien, il est assez intéressant.
Donc, Yves Maître, c'est chez First et Gilles Babinet, c'est aux éditions
Le Passeur.
Du Passeur. Voilà. Là, vous avez un livre beaucoup plus.
Un peu plus violent, alors qu'il est l'un des best-sellers. Alors j'en parle, il est sorti en 2025, mais il est sorti en français, en mars-avril 2026. Ça s'appelle L'Empire de l'IA. C'est une journaliste, Karen Ao, qui a écrit ce livre. C'est aux éditions Écran Fantastique. Et en gros, là, c'est comprendre. Elle est partie du lancement d'OpenAI. Vous savez, OpenAI, c'est apparu depuis longtemps, mais nous, on a vraiment commencé à le connaître en novembre 2022 avec son célèbre algorithme ChatGPT. Et donc, elle explique tout ça, les dérives de l'industrie IA. On va décrypter les enjeux de pouvoir, voir. On sait que les Américains, eux, ils tendent plutôt vers aller vers une intelligence générale qui pourrait ressembler un jour à notre intelligence. Et justement, elle dit voilà tous les dangers de tout cela. Et elle revient aussi sur les Chinois. Les Chinois, eux, sont plus pragmatiques. C'est une IA au service de l'industrie, au service des métiers. Voilà, ils ont vraiment ce côté business. Et donc, comme c'est une journaliste, c'est une enquête journaliste assez fouillée. Et ça attaque tous les aspects géopolitiques, économiques. Donc, je vois qu'avec ces trois ouvrages, on couvre vraiment le côté pédagogique, le côté un peu, voilà, on a un peu les bases avec Gilles Babinet, le côté pédagogique avec Yves Maître, et puis on prend un peu de hauteur sur le côté géopolitique, économique, et les grandes batailles qui s'annoncent, enfin qui sont déjà là, mais qui s'annoncent avec l'Empire de l'IA de Karen Ao, qui existe en français, édition Écran Fantastique.
Alors, il n'y a qu'un aspect qu'on n'a pas couvert, Jean-Marc Daniel, c'est l'aspect pratique. Parce que vous, les questions philosophiques du pape, ça vous passe un peu au-dessus.
Oui, c'est dommage. Hein, c'est vrai qu'on est en contact avec le pape le dimanche de temps en temps pour penser.
Alors que l'IA, à quoi ça sert? Ça sert à supprimer des fonctionnaires pour Jean-Marc Daniel. Voilà.
L'IA, elle répond, alors que Dieu, il répond pas toujours.
Donc le livre dont je vais parler, c'est Anatomie de la bureaucratie de Frédéric Masquelier. Donc Frédéric Masquelier est à la fois un juriste et un élu d'une ville du sud de la France. Et donc, il analyse la vie quotidienne des gens face à l'IA, faire ce qu'il appelle l'algocratie. On va passer de la bureaucratie à l'algocratie. Donc ça va avoir un intérêt pour le contribuable, c'est-à-dire que ça va supprimer effectivement un certain nombre d'emplois, donc réduire les dépenses publiques, mais ça va aussi supprimer le côté humain. C'est-à-dire que en face de soi, on n'aura plus l'homme du guichet.
L'humanité du fonctionnaire.
L'homme de guichet. Il dit la logique du guichet, qui a été en plus caricaturée dans certains sketchs, va totalement disparaître. On va avoir dans face de soi une mécanique totalement aseptisée. Et il dit il va falloir gérer ça parce qu'il y a des gens que ça inquiète. Et il y a des gens qui vont regretter le bureaucrate quand ils seront en face de l'algo.
Mais on en arrivera, bien sûr, à regretter.
C'est bien qu'un libéral reconnaisse qu'un fonctionnaire, c'est humain aussi.
On finit cette
saison. C'est pas forcément utile, mais c'est humain.
Non, mais la conversion.
C'est utile. L'humanité a quand même un peu d'utilité.
Pas totalement. Il y a des choses dans l'humanité, dans la vie quotidienne, dont on peut considérer qu'elles sont inutiles.
Même pour la dernière émission, j'ai entendu.
C'est un avantage, quand même.
Même dans la dernière émission, j'ai entendu de la bouche de Jean-Marc Daniel des choses que je n'aurais jamais cru entendre. Mais enfin, vous nous avez habitués cette année à des positions presque
Bien.
Non, 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 il ne faut pas exagérer.
Là, si je vous fais un procès en diffamation, je gagne. Hein.
Allez, on passe à notre deuxième thème qui a été aussi un terme qui a beaucoup inspiré les auteurs depuis plusieurs mois. C'est évidemment le durcissement du climat géopolitique, ce climat conflictuel qui s'est installé. Que veulent les nouveaux maîtres du monde ? Christian Chavagneux, sur cette rubrique, pour nous éclairer, vous avez choisi le livre d'Aurore Laluc, Trump contre le Europe, comment rester libre ? C'est aux éditions Les Petits Matins.
Oui, donc Aurore Laluc, on la connaît, c'est la présidente de la Commission des affaires économiques et monétaires au Parlement européen. Elle nous dit attention, Donald Trump ou pas Donald Trump, les États-Unis sont plus vraiment notre allié. Les Chinois vont essayer de nous manger économiquement. Donc, il faut que l'Europe réduise sa dépendance à la mondialisation. Et pour ça, c'est une succession de petits chapitres dans lesquels on va parler bien évidemment défense, mais aussi IA, euro numérique, moyens de paiement, culture, énergie, etc. Et elle fait un petit résumé vraiment de l'état du lieu des rapports de force et que peut faire l'Europe. Alors, il y a un petit peu de wishful thinking sur le thème l'Europe est vraiment très forte, elle peut faire tout ce qu'on veut, mais c'est un vrai livre qui nous donne de l'optimisme et qui fixe un cap politique et économique pour l'Europe de demain, et pour ça c'est vraiment un livre intéressant.
Parfait. Dorothée Duron, vous avez choisi un livre en anglais, Choke Points, American Power in the Age of Economic Warfare.
Eh ben, d'une certaine façon, c'est le miroir du...
C'était bien jusqu'à...
J'ai rien dit.
C'était bien. Jusqu'à Warfare, c'était bien.
C'est pas grave, on s'en fiche. Mais en fait,
par Edward Fishman.
Voilà. Non, mais ce qui est intéressant, c'est que c'est le miroir du livre choisi par Christian, parce que c'est du côté des États-Unis. C'est, on regarde ça avec les États-Unis qui ne sont plus une puissance au sens militaire du terme, mais ont réussi à conserver ce qu'ils appellent les choke points. Donc, c'est les goulots d'étranglement qui permet enfin de ouvrir, fermer les vannes pour maîtriser le reste du monde. Alors, c'est dans la finance, c'est les monnaies. Et en fait, on en a eu un exemple assez criant il n'y a pas très longtemps, quand Anthropic, avec l'IA, où ça a été arrêté. On voit bien le lever de bouclier de tous les grands dirigeants européens en disant, mon Dieu, mais ça y est, on est vraiment fragile. Bon, ce qui est intéressant, c'est quand même, quand ça a été arrêté, c'était pas tant pour nous faire mal, les Européens, c'était plutôt un browsing de président américain pour expliquer à la tech que c'était lui le chef et pas les autres, et on a été que les dommages collatéraux. Donc c'est assez intéressant, justement, de voir le monde différemment, puis en, pas en puissance militaire, mais en point d'étranglement. Donc c'est bien listé, bien écrit. Enfin, quand on lit anglais, l'anglais, c'est bien écrit.
Ouais, bah, on peut bien le lire et puis pas très bien le prononcer. Hein, aussi.
Ah, mais j'ai pas de jugement, j'ai rien dit.
Allez, Jean-Marc Daniel. Jean-Marc Daniel, on passe à votre choix. Jean Perlevade, avec qui vous aviez débattu justement sur son livre ici, La France du populisme au chaos. C'est aux éditions Odile Jacob. Contre quoi nous avertit Jean Perlevade ?
Alors Jean Perlevade, son propos étant centré essentiellement sur la France, mais pas exclusivement, sur l'évolution des économies occidentales. Ce qu'il dit, c'est que les économies occidentales, dans un souvenir nostalgique des Trente Glorieuses, plus ou moins d'ailleurs mal interprété, ont chargé la barque des entreprises pour essayer de distribuer du pouvoir d'achat, et puis n'arrivant pas à leur fin, elles ont augmenté donc le niveau de vie, le revenu, par de la dette. Et il dit, il va falloir remettre au centre de la réflexion économique et politique la compétitivité et le respect des entreprises et la quête systématique de la réduction des États et des dépenses publiques. Alors, c'est à la fois de la part de quelqu'un qui a été associé à 1981, d'ailleurs il ne s'en cache pas, il dit 1981, j'étais là, et il fait un peu à la fois un bilan de vie, un bilan général des périodes qui sont précédées, en disant il faut véritablement, si on ne veut pas passer du populisme qui est en train de monter en puissance à une phase encore plus lourde qui sera le chaos, il va falloir remettre l'entreprise, la compétitivité au centre de la réflexion économique et politique.
Sur l'Europe, il dit quoi ? Justement, c'est un levier de...
Oui, sur l'Europe, il dit bien qu'effectivement, l'Europe, donc la France, mais pas que la France, l'Europe, d'une façon générale, a surchargé les entreprises, a surdéveloppé un État-providence au-delà des capacités de la productivité inhérente au système productif. Et donc, il dit, il y a un moment où il va falloir mettre les gens au pied du mur, c'est soit l'appauvrissement, soit le respect des entreprises.
Allez, et ben moi j'ai choisi de vous parler parce que c'est toujours bien. Vous savez, c'est il y a toute cette veine de livres qui essaye de faire le pont entre la stratégie militaire, le business, voilà. Alors sans remonter à Sun Tzu, évidemment beaucoup plus modestement, le livre du général Vincent Desportes. Stratégie, les essentiels. J'ai bien aimé parce qu'en fait, il transpose finalement toutes les techniques de la stratégie militaire. Bon, il sait de quoi il parle, c'est un ancien directeur de l'école de guerre. Et donc, il nous transpose tout ça à la vie économique, finalement. Comment, voilà, dans un monde de conflit, dans un monde incertain, essayer de se tracer des perspectives et d'avancer. Il y a des conseils intéressants. Moi, ça m'a pas mal intéressé. Troisième thème qui a beaucoup produit de livres au cours des derniers mois, la démographie, la transition écologique, tout ça étant de plus en plus lié, démographie, écologie, la planète va-t-elle devenir plus vivable ou non ? Christian Chavagneux, vous avez choisi le livre de François Jarige aux éditions du Détour. Deux siècles de lutte environnementale en France.
Oui, deux siècles de lutte par le bas. Hein. C'est pas les grands débats intellectuels autour de, ouais, de la défense de la nature ou de la planète. C'est vraiment centré sur la France. On démarre en gros milieu du 19e siècle. On s'aperçoit que déjà, il y a des gens qui se mobilisent en disant attention, les fumées d'usines, attention, la qualité de l'air, attention, la qualité de l'eau, attention au bois, aux forêts qu'on exploite trop. Donc, on commence dès le 19e siècle. Et puis, on voit que fin 19e, début 20e, les sujets de rapport au travail, les sujets de l'écologie scientifique naît. On commence à vraiment à faire le lien entre l'activité humaine et ce que ça produit comme dégâts sur la nature d'une manière scientifique. Bien évidemment, Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale, les Trente Glorieuses, là, c'est tout pour la croissance, l'environnement est vraiment mis de côté. Et les batailles recommencent dans les années 70, bien évidemment. René Dumont, candidat écologiste en 74 à la présidentielle. Et puis, le livre montre bien qu'il y a plusieurs gros mouvements associatifs, une grosse presse écologique qui va se développer dans les années 70-80. Et puis, on se dit début des années 2000 jusqu'à aujourd'hui, je dirais les hauts et les bas, et malheureusement, nous dit l'auteur à la fin du livre, ben on est plutôt dans un bas, les anti-écolos, alors que ça pourrait être paradoxal, compte tenu de notre situation, eh bien sont plutôt sur le haut du panier, on est plutôt sur le retrait, sur le non-développement des politiques climatiques aujourd'hui.
La démographie, Jean-Marc Daniel, oui. Passionné. Ben alors d'abord, le prix du livre d'économie de l'année a été attribué à Hippolyte Dalbis pour son L'économie des âges. Mais il y avait aussi d'autres bouquins qui méritaient d'être salués. Vous avez choisi celui de Thibaut Prébet, et d'ailleurs on a fait une librairie avec Hippolyte Dalbis et Thibaut Prébet. C'est aux éditions du Rocher, Démographie, la bombe tranquille. Et puis vous vouliez nous parler aussi du livre de Pauline Rossi, que vous avez lu aussi, Christian, ensemble. Le déclin démographique, une urgence économique.
Alors, outre la qualité de ces deux livres qui viennent d'ailleurs en complément, encore une fois, vous l'avez dit, d'Hippolyte Dalbis, le premier est assez original, d'abord pour deux raisons. La première raison, c'est moi qui ai fait la préface, donc c'est une originalité. Et c'est prouve qu'il a trouvé...
C'est une particularité. Attendez, Jean-Marc, dites tout la vérité. Combien vous faites de préfaces par an ?
Non, pas tant que ça, contrairement à ce que vous pensez. Sauf que si je le signale régulièrement, mais je n'en fais pas tant que ça. Et donc, cette préface, je l'ai faite en ayant lu le livre. Et c'est une originalité parce qu'il aborde la démographie en essayant de comprendre pourquoi, effectivement, il y a de moins en moins d'enfants, pourquoi la natalité baisse, et pas uniquement en France, pas uniquement dans les pays occidentaux. Donc, sa thèse, son idée, c'est qu'en fait, les familles sont sensibles à la descendance finale, à l'idée que leur but, c'est d'avoir deux ou trois enfants qui restent en vie après la mortalité infantile, les périodes de l'adolescence et tout ça, qui puissent garantir l'arrivée de deux ou trois enfants à l'âge adulte. Et donc, à partir du moment où il y a des progrès systématiques de la médecine, on a besoin de moins d'enfants au départ pour être sûr d'en avoir deux ou trois à la fin. Et donc, il dit, et se redresse de toute façon, que vous imaginez ne viendra pas. Et alors, Pauline Rossi, c'est plus académique.
Et il en tire les conséquences économiques.
Économique. Alors après, il aborde l'inflation, la croissance et tout ça. Pauline Rossi, c'est plus académique, c'est très pédagogique. Elle développe d'abord les concepts qui sont à l'origine de la démographie en tant que science. Et puis, elle aussi, elle rejoint l'idée qu'il ne faut pas se faire d'illusions. Les politiques familiales sont vouées plus ou moins à l'échec. En fait, elles seront décevantes. Et donc, il faut plutôt réfléchir en termes de vieillissement qu'en termes de relance de la natalité. Il va falloir aborder l'idée, la mise en place de ce qu'on appelle la silver economy, plutôt que de se raccrocher à l'idée de généraliser une politique familiale particulièrement généreuse. Ces deux livres qui sont en plus écrits dans un style très, très clair et très, très, très pédagogique. Pour Pauline Rossi, ça se lit véritablement sans difficulté. Et on comprend quand même beaucoup de choses par-delà les aspects techniques de cette science qu'est la démographie.
Frédéric Dimatel.
Mais plus que la silver economy, aujourd'hui on était au CES au début d'année 2026. Il y avait un grand thème, c'est la longévité tech. C'est comment on devient, comment on se porte. Et beaucoup de jeunes Américains, mais qui ont 20-25 ans, se lancent déjà. Donc, ils font attention à ce qu'ils mangent, ils font même attention aux matériaux qu'ils touchent, aux matériaux qu'ils portent. Et il y a tout un ensemble de technologies qui se déploient dans le sens de la longévité, mais pas pour la cyber-économie dès le début.
C'est l'expression du transhumanisme qui est très détaillée par le pape.
Et tout ça, c'est des moteurs de croissance. Vous aviez aimé aussi, Christian, le déclin démographique.
Oui, de Pauline Rossi, très pédagogue, tout à fait.
Et moi, j'ai choisi de vous parler sur cette thématique transition. Moi, il y a deux, trois économistes que je trouve au-dessus du lot en matière de tout ce qui est écologie. Il y a Christian Gaulier et il y a Christian Depertuis.
Christian Depertuis. Ah, si, bien sûr, d'accord. Christian Depertuis, c'est un des meilleurs.
Ouais, Christian Depertuis, qui finalement nous propose une édition revue augmentée et miniaturisé, puisque ça sort chez Folio, de son très bon livre qui était sorti en 2023, Carbone fossile, carbone vivant. Et l'approche, là encore, qui était originale, c'était oui, bien sûr, faut réduire notre usage des hydrocarbures, mais il faut aussi massivement développer la captation du carbone par le vivant, donc les forêts, les sols, la mer, envisager des nouvelles façons de produire, de cultiver. Voilà, moi je trouve que c'est un livre majeur que vous pouvez avoir maintenant en petit format, mais revu encore une fois et augmenté. Et on termine avec la dernière thématique qui a produit également une littérature abondante, le surendettement et la contradiction entre nos États surendettés et des besoins d'investissement absolument colossaux. Comment investir dans un monde surendetté? On a un début de réponse, Christian Chavagneux, avec le livre d'Anton Brindert chez Odile Jacob, Géopolitique de la dette, où va l'épargne du monde?
Alors justement, il explique qu'on n'est pas forcément surendetté, contrairement à la façon dont vous avez lancé le livre, Emmanuel. J'adore ce livre parce que il est extrêmement pédagogique. C'est vraiment, si vous connaissez les questions de finances, de dette, ça dépend, c'est pas toujours facile, c'est très technique. Et là, franchement, Anton Brindert, c'est un macroéconomiste, il a fait un gros effort pédagogique qui nous explique que compte tenu de l'importance de l'épargne mondiale, s'il n'y avait personne pour emprunter cette épargne, on serait en état récessif. Et donc, heureusement qu'il y a un emprunteur en dernier ressort quelque part, et les États, notamment en Europe, jouent ce rôle d'emprunteur en dernier ressort. Anton Brindert ne dit pas que les dettes publiques peuvent exploser, qu'il n'y a aucune limite, bien évidemment. Mais il nous dit heureusement qu'il y a cet emprunteur en dernier ressort. Il va passer en revue ce qui se passe aux États-Unis, en Chine, au Japon, dans les pays émergents, dans les grands pays, surtout industrialisés. Et on est vraiment dans la compréhension fine de cette bataille pour l'épargne. C'est-à-dire tous les États veulent récupérer l'épargne mondiale. En même temps, attention, quand on s'endette beaucoup, il y a des risques. On est dans cette tension entre récupérer l'épargne mondiale, mais attention à pas trop s'endetter. Mais le rôle essentiel de la dette pour éviter la récession mondiale. Et tout ça expliqué de manière très, très pédagogique.
Formidable. Dorothée Duron, qui a décidé de mettre à l'épreuve mon anglais, je vous laisse.
Allez-y, on attend ça avec impatience.
Vous êtes prêts?
C'est cette truculence à attendre l'écoute, franchement.
The Doom Loop. Why the world economic order is spiraling into disorder.
Bah, très bien.
Magique.
Je progresse, Allez, Eswar Prasad.
Alors, c'est un livre.
Je surpasse Jean-Pierre Raffarin et François Hollande maintenant.
Oh là là, bien sûr.
On est dans le top 3 là, c'est bon.
Allez,
il
n'y
a plus que Chirac dessus et on est bon. C'est l'auteur de ce livre, c'est un ancien du FMI qui notamment suivait toute la partie de la Chine, professeur à Cornell. Et en fait, il n'y a rien de révolutionnaire dans ce qu'il raconte, c'est simplement extrêmement pédagogique parce qu'il montre l'évolution de ce qui a été, j'allais dire, mondialisation heureuse, toutes les interconnexions, tous les flux qui ont créé un cercle vertueux et qui aujourd'hui en fait sont en train de devenir un cercle vicieux. C'est exactement cette idée de boucle infernale, de double loop. C'est vraiment, on est en train de descendre parce que quand l'économie s'effondre dans un pays, la conséquence c'est que politiquement ça crée des tensions et cette tension géopolitique recrée des inconvénients d'un point de vue économique. Et en fait, l'intérêt de ce livre, c'est justement de montrer de façon très claire toutes les interactions, comme une entreprise à Taïwan de puces qui a une grève, les conséquences, elles sont mondiales, elles ne sont plus locales. Donc en fait, un petit incident devient un incident énorme. Donc il y a pas, c'est pas la révolution ce livre. Par contre, pour avoir une vraie compréhension, ça fait écho à ce que disait Christian, c'est que Christian, c'est un regard complet sur la relation entre épargne et investissement. Là, c'est un regard complet sur les interactions entre les entreprises et les grandes économies mondiales. et avec leurs conséquences. Et
avec cet éclatement massif finalement des chaînes de production. Ah bah c'est mondial sur lesquels on est en train de revenir.
On est parti de la globalisation à aujourd'hui la régionalisation, et évidemment ça pose des vrais problèmes, et enfin des vrais problèmes, ça crée des tensions et on a des nouvelles répartitions. C'est toujours intéressant de voir qu'aujourd'hui le commerce sud-sud, donc entre des pays dits émergents, c'est plus de 25% du commerce mondial. Il y a 20 ans, c'était même pas 3%. Donc on voit bien qu'il y a des nouveaux équilibres qui se dessinent. Et dans ce livre, c'est remarquablement bien expliqué de la part de quelqu'un qui était en Chine et qui a vu la montée en puissance de la Chine dans le commerce mondial. Donc ça vaut le coup de le lire.
Merci Dorothée. Et puis dans votre long rapprochement que vous effectuez avec Christian Chavagne, Jean-Marc Daniel, vous avez choisi de nous parler d'un livre que vous avez aimé et dont vous nous avez parlé déjà tous les deux, L'argent. De John Kenneth Galbraith aux belles lettres.
Néanmoins, si je peux vous rassurer, quand Christian dit heureusement que les États s'endettent, je ne partage pas ce point de vue. Je ne partage toujours pas ce point de vue. Et donc, et d'ailleurs, John Kenneth Galbraith, c'est pas loin de se poser la question de savoir quelle est la pertinence, même si, en tant que Keynésien, il n'est pas effrayé par l'évolution de la dette publique. Donc, son livre L'argent, c'est un livre qui a été réédité à l'occasion du 20e anniversaire de sa mort. Donc, dans la dernière version, celle de 1996, avec à la fin quelques considérations qu'il a pu faire dans ses derniers moments de vie sur la science économique, la façon dont l'économie avait évolué. Dans la conclusion, il dit « J'ai commencé ma carrière d'économiste avec des mathématiciens. Je crains de devoir la finir avec des astrologues. » constatant avec tristesse une certaine propension de la profession à se répandre. Alors, ce qui est intéressant, c'est pas uniquement ces quelques considérations, c'est aussi cette histoire de la monnaie très centrée sur les États-Unis. Il y a des portraits de gens dont on ne sait plus très bien qui c'était. Moi, j'ai été ému voir le portrait d'Albert Gallatin, qui a été des grands secrétaires au Trésor et qui était un Français d'origine et qui avait une force. Ce qu'explique Galbraith, c'est que quand on lui demandait davantage d'argent public, comme il parlait pas anglais, il disait I can't understand, avec un accent que vous auriez reconnu avec émotion.
Merci beaucoup, Jean-Marc Daniel. Allez, c'est la fin de cette première partie. On se retrouve tout de suite pour de nouveaux conseils de lecture pour vos vacances.
BFM Business. La librairie de l'écho, Emmanuel Lechypre.
On se retrouve pour la deuxième partie de cette librairie de l'écho avec toujours nos critiques attitrés, Christian Chavagneux, Jean-Marc Daniel, Dorothée Duron. Et puis nous sommes rejoints par notre éditorialiste international, Annalisa Cappellini.
Bonjour Emmanuel.
Annalisa qui va nous parler aussi de sa sélection de livres qui font voyager, puisque c'est la thématique que nous avons choisie, les livres qui font voyager, alors qui font voyager dans le temps avec les livres d'histoire, qui font voyager dans le monde, qui nous emmènent ailleurs. On commence avec vous, Christian Chavagneux. Votre sélection pour cette rubrique commence par Le fascisme en col blanc par Xavier de Jarcy aux éditions Critique.
Oui, on a vu noter le rapprochement du plus grand syndicat patronal et certains grands patrons avec l'extrême droite en France. Le livre de Xavier de Jarcy nous montre que malheureusement, ça s'est déjà produit dans l'histoire, c'était dans les années 20-30. Biographie un peu centrée sur Ernest Mercier, qui dirigeait un groupe qui s'appelait le Redressement Français, qui était très très proche de l'extrême droite. Donc voilà, on a autour de cette biographie, on retrouve des patrons français qui réclament la baisse des dépenses publiques, alors qu'avant la Deuxième Guerre mondiale, c'était vraiment pas un niveau de ce qu'elles sont aujourd'hui, l'attaque de l'État social, alors que c'était pas ce qu'était aujourd'hui, etc., etc. Donc c'est mise en perspective historique d'un climat politique qu'on connaît aujourd'hui.
Ensuite, vous avez choisi de nous emmener à New York.
Ah oui, oui, oui. La victoire
de Zoran Mamdani. Un laboratoire pour la gauche par Tristan Cabello chez Textuel.
Oui, tout à fait. Alors ça, c'est vraiment impressionnant. C'est un petit bouquin de quelqu'un qui a suivi de près la campagne. 9 mois avant les élections à la mairie de New York, Mamdani a 1% d'intention de vote et il est élu haut la main maire de New York. Comment est-ce qu'il a réussi cette gageure? On rentre sur le fond, quelles étaient les propositions du candidat, et sur la forme, c'est la première fois que j'ai vu détailler l'organisation de sa campagne, toute l'efficacité minutieuse des gens qui ont préparé et qui ont engagé sa campagne et qui ont amené à la victoire. Tous ces gens qui ont été prêtés à des candidats, je dirais, plus à gauche du Parti démocrate et qui viennent de remporter beaucoup de victoires aux États-Unis pour être les candidats démocrates aux prochaines primaires.
Et
aux prochaines midterms, pardon.
Vous terminez avec le numéro estival de la revue L'histoire, 1000 ans de capitalisme.
Ah, j'ai adoré ce numéro. Franchement, nos confrères de l'histoire ont réussi un magnifique travail. Ça commence par un très bon article de synthèse de la pensée de Fernand Braudel sur le capitalisme, c'est quoi. Notamment, Braudel nous explique bien qu'il n'y a pas un capitalisme commercial, puis industriel, puis financier, puis informationnel. Braudel nous montre bien que tout ça est déjà bien mélangé depuis le Moyen-Âge. Il y a les chemins habituels sur les marchands de Venise, sur la vogue hollandaise, etc. Mais aussi quelques chemins de traverse vraiment intéressants les marchands égyptiens au XIe siècle, sur tel ou tel théologien hollandais. Franchement, la seule petite surprise pour moi, c'est que sur un numéro aussi épais, aussi bien fait, aussi peu d'articles sur le capitalisme français. Mais ça n'enlève rien à la grande qualité de ce numéro. Franchement, excellente lecture de vacances.
Magnifique. Dorothée Durand, vous avez choisi de nous emmener aux États-Unis.
Bah oui, une
vous
fois de
aussi,
plus.
Avec le paradoxe antitrust d'Amazon de Lina Khan.
Oui, alors c'est je voyage en histoire, c'était il y a 10 ans en fait, c'est très intéressant. C'est un article académique qui a été écrit, elle était vraiment une jeune étudiante à Yale quand elle sort ce papier, et c'est un moment où elle repense complètement la façon de qualifier le droit de la concurrence et l'antitrust, en disant que Amazon y échappe complètement alors qu'il vend à perte, enfin il a une construction économique avec une certaine définition du marché pertinent qui lui permet finalement de dominer et elle son livre est écrit en disant en fait le monopole c'est pas simplement par les prix qu'il s'exprime, c'est aussi par la façon de devenir incontournable. Et en fait elle met le doigt sur ce qu'on voit aujourd'hui auprès des géants de la tech, et elle a mis le doigt là-dessus il y a 10 ans. Ce qui est intéressant, c'est qu'au même moment il y a plein de cours dans les États américains qui ont commencé aussi à vouloir requalifier, mais c'était pas décidé au niveau global. C'est son petit ouvrage a fait son chemin, s'est fait partager, au point qu'elle a été nommée par Biden patronne du FTC, donc qui est l'espèce de grande autorité de l'antitrust américain. Et c'est elle qui a lancé cette dynamique politique. Et en fait, c'est un écho finalement au Sherman Act, le Sherman Act qui est donc la grande histoire pour dissoudre toutes les grands Standard Oil et toute l'économie, enfin les grands conglomérats américains, les grands conglomérats américains de la fin du 19e et début 20e. Ce qui est encore plus amusant, et là je rejoins encore Christian, c'est la première fois que j'ai autant d'échanges avec Christian sur nos lectures qui ne sont pas toujours les mêmes, c'est qu'en fait, elle fait partie de l'équipe de Mamdami aussi à New York. Elle était sur toute la partie programme économique, où elle était dans ces groupes effectivement démocrates qui sont venus en satellite de la campagne pour accompagner. La fille est objectivement remarquable. Elle a, enfin, d'avoir réussi à percer en étant une simple étudiante à Yale qui fait un essai sur le droit de la concurrence où elle requalifie complètement. Extrêmement intéressant à lire.
C'est une révolution intellectuelle de l'antitrust aux États-Unis.
Vraiment.
Le livre de Lina Khan. C'est vraiment passionnant.
Merci, Dorothée. Je reconnais bien là votre passion pour le droit de la concurrence.
Oui, c'est...
mais oui, mais
un c'était... jour toujours, hein.
Mais c'est passionnant. Annalisa Capellini, vous avez choisi de nous parler du livre de Michel Fayade, Après la guerre. C'est aux éditions Fayard.
Oui, exactement. Michel Fayade qui vient régulièrement nous voir sur BFM Business pour nous expliquer tout ce qui se passe sur le terrain moyen-oriental. C'est vrai que cette guerre, on l'a beaucoup suivie et on s'est parfois un peu perdu hein, dans les allers-retours des uns et des autres. Donc, c'est un peu le moment de bien comprendre ce qui s'est passé, surtout ce qui va se passer ensuite, parce qu'on s'est beaucoup posé la question de savoir si le gouvernement iranien, si le régime de Téhéran va tomber. Bien, Michel Fayade nous dit que la question n'est pas de savoir s'il va tomber, mais qu'est-ce qui va le remplacer, parce qu'en réalité... Le régime de Mollah a beaucoup de ramifications différentes, non? Le Hezbollah libanais, les rebelles houthis, les milices irakiennes. Donc, comment vont évoluer toutes ces mouvances si le régime iranien venait à s'effondrer? Bah là, on a quelques éléments de réponse. Et puis, nous, on s'est toujours concentré sur l'Iran en pensant que c'était l'ennemi total de l'Occident. Ce qui est vrai sous certains aspects, mais il y a en réalité beaucoup d'autres pays qui pourraient profiter de la chute de l'Iran, d'une perte de pouvoir d'influence de l'Iran, pour essayer de reprendre de l'influence au sein de la région du Moyen-Orient et donc réorganiser toute cette région. Donc Michel Fayade nous explique très clairement ce qui pourrait se passer, comment, et nous en tant que Français, comment on doit l'analyser et réagir.
Merci Annalisa. Jean-Marc Daniel, vous avez choisi deux livres d'histoire. Charles de Fraissinet, Stratège de la République par Cédric Lewandowski, c'est aux éditions Passé Composé.
Alors, c'est un livre sur un personnage qui est un personnage assez emblématique de son époque, mais qui n'est pas forcément une figure marquante de l'histoire de la France. Donc, Charles de Freycinet, c'est l'ingénieur polytechnicien qui s'implique dans la révolution industrielle dans le Second Empire et qui devient ensuite ministre sous la Troisième République. Il est assez représentatif de ce type de personnalité qui s'est constituée autour de la France, quittant le monde rural pour devenir une puissance industrielle. Il n'est pas forcément d'ailleurs totalement sympathique. Pendant l'affaire Dreyfus, il se comporte de façon assez peu courageuse, voire carrément lâche. Ce qui est intéressant dans le livre, c'est de décrire effectivement une période qui est assez peu connue. Cette période de la deuxième moitié du 19e siècle. On parle toujours, on dit le Second Empire, c'est Haussmann, mais de façon concrète et de voir qui sont les gens qui ont été associés à cette histoire, c'est assez rare de le trouver. Donc là, ce livre permet de faire une plongée dans cette période.
Plus près de nous, Jean-Marc Daniel, nous avons aimé cette histoire de la Stasi par Jean-Louis de Montesquieu aux éditions Perrin.
Oui, absolument. Alors, c'est une histoire d'une police politique. Elle n'est pas très originale en soi, parce que c'est comme la Tchéka créée par Lénine, qui a eu après différents avatars avant de devenir l'actuel KGB. Il y a eu dans toutes les démocraties populaires une police de sécurité. Ce qui est intéressant dans le livre, c'est de noter la spécificité un peu germanique de la Stasi. C'est-à-dire d'abord les gens qui étaient, le pays qui sur lequel ils s'appuyaient était un pays qui était relativement artificiel. Les dirigeants n'étaient pas forcément des gens qui étaient issus du territoire, de l'histoire, de la culture d'Allemagne de l'Est. Il rappelle que Honecker, par exemple, venait de Sarre, que les dirigeants étaient là, dans une construction intellectuelle, dans une démarche, c'était une démarche idéologique, avec des spécificités et que l'on retrouve y compris dans la façon de gérer la police. Alors après, on retrouve des astuces. Il insiste sur le fait que à la fin, tout le monde finissait par être plus ou moins un délateur. C'était, il y avait une espèce de logique de l'espionnage, de la délation. Il dit même dans les prisons, il y avait une stratégie qui consistait à mettre systématiquement les politiques et les droits communs ensemble, parce qu'on était sûr qu'ils ne pourraient pas sympathiser et que les droits communs diraient ce que pensent les politiques, mais les politiques iraient également dénoncer, pour des raisons plus ou moins morales, le comportement des droits communs. Donc, c'est la description d'une police politique qui a déjà existé dans notre pays, mais qui avait pris un tour et une efficacité particulièrement remarquable en Allemagne de l'Est.
Allez, et moi, j'ai trouvé qu'il y avait une apparition de livre sur le Maroc qui souligne un petit peu finalement, alors ce que certains appellent le miracle marocain, ce pôle de stabilité dans un Moyen-Orient un peu en ébullition. Il y a le premier qui est le livre de Sébastien Boussois, qu'on connaît bien aussi à BFM, qui est un chercheur spécialiste du Moyen-Orient et qui là publie Maroc, la force de la stabilité, c'est aux éditions du Cherche Midi. Et puis, dans la même veine, il y a le livre du consultant Abdelmalek Alaoui, Maroc, le défi de la puissance. C'est également au Cherche Midi. Donc, si vous voulez comprendre les ressorts de l'essor marocain, eh bien, ces deux livres vous passionneront. Allez, c'est le moment de partir en randonnée à la plage, mais avec des petits livres qu'on met dans sa poche ou dans son sac. Et là, les amis, la consigne que je vous avais donnée, c'était des livres pas lourds, pas fragiles, pas trop gros, et écrits un peu gros, hein, comme les aime Jean-Marc.
À l'âge que j'ai, vous savez, la grosseur des caractères devient une nécessité.
Alors, on commence avec les petits livres que Christian Chavagneux donc met dans son petit sac à dos. Travail, Émile Zola.
Oui, on a l'habitude. Oui, c'est folio hein, chez Gallimard. On a l'habitude de se focaliser sur les Rougon-Macquart quand on parle d'Émile Zola. Faut pas oublier qu'il a écrit d'autres livres aussi, notamment à la fin de sa vie, il avait toute une série sur les Évangiles. Donc il en a écrit trois. Malheureusement, il n'a pas pu écrire le quatrième. Mais là, Travail, c'est un livre qui avait complètement disparu et que Gallimard a eu la bonne idée de republier. Donc ça commence comme Germinal. On est dans une bataille avec les mineurs, la description des conditions du capitalisme français fin 19e terrible, mais contrairement à Germinal, là, ça va se développer en une cité idéale. Et si Fourier avait eu raison, si on avait réussi à mettre en place un modèle de phalanstère efficace, qu'est-ce que ça aurait pu donner? C'est vraiment un roman complètement utopique, mais tout à fait passionnant. Alors, je regrette pour Jean-Marc, c'est chez Folio, et ce sera des petits caractères.
Alors, vous avez...
Zola ne me manquera pas forcément, d'ailleurs.
C'est bien dommage.
C'est bien dommage. Attendez, vous n'êtes pas... Vous n'aimez pas Zola?
Les écrivains de cette époque-là, je suis plus Maupassant, Huysmans, Paul Bourget que Émile Zola.
D'accord, bah écoutez, un prix...
Huissements, c'est plus.
Oui, c'est plus étonnant.
C'est bien. Oui, mais c'est délicieux.
Il est... et sur le fond, je pense qu'on a oublié des gens comme Paul Bourget. Alors, je ne vais pas jusqu'à Henri Bordeaux ou des gens comme ça, mais Paul Bourget, je recommande d'ailleurs. Mais Le disciple de Paul Bourget, c'est un livre absolument remarquable.
Ah oui.
Bon.
Ben, ah ça, le disciple de Paul Bourget, je partage.
Pour une fois, on va être d'accord.
Arbour de Huissements.
Je partage alors, aussi.
Voilà, c'était notre vraie parenthèse de vraie littérature.
Et sur mon passant, on va tous être d'accord pour Bel Ami. Et voilà, les vacances sont
et d'autres.
Hop. Elles ne sont pas faites encore, les vacances. Là. Il a une très belle histoire. Tiens, c'est une spéciale dédicace pour Annalisa Capedellini, la romanesque histoire d'une cafetière nommée Mocha. Oh, oui. Celestina Bialetti et Alessandro Barbaglia.
Ouais, c'est chez Barbaglia. Ouais, c'est chez Liana Levi, pardon. Ouais. C'est remarquable. Évidemment, Annalisa connaît sûrement la petite Mocha Express.
Bien sûr. Ou la
Bialetti. Et donc, on a la fille de l'inventeur qui nous raconte, donc qui a pris Alessandro Barbaglia, qui est un écrivain italien assez connu, pour romancer l'histoire de l'invention de cette petite cafetière que vous connaissez peut-être en alu, ouais. Qui est comme ça, qui permet de se faire un petit café pour une personne, et c'est remarquablement écrit, c'est romancé. On s'aperçoit que le papa qui a inventé ça, franchement, il voulait le faire pour 4-5 copains, mais son fils, Renato, a dit non, on va en faire une multinationale mondiale. Il a développé une énorme usine, hyper efficace. Des dizaines de millions de Bialetti de Mocha Express ont été vendus dans le monde. C'est romancé, c'est extrêmement bien écrit, et c'est un petit livre là que Jean-Marc pourra lire très facilement.
Les passeurs d'histoire. Françoise Kérimer, ouais, histoire de la librairie Gibert.
Ouais, Buchet-Chastel, on comprend qui était Joseph Gibert, ce petit Auvergnat qui est monté à Paris, qui était bouquiniste, et puis qui a sur les quais Saint-Michel, et puis il dit tiens, il y a un magasin en face, il a commencé par ouvrir une librairie, puis une autre, et puis c'est devenu Joseph Gibert, et puis ses deux fils, ils se bataillaient un petit peu, donc il y en a un qui a conservé Joseph Gibert, l'autre qui a créé Gibert Jeune, les deux frères finiront par se rassembler à la fin de leur vie. C'est remarquablement écrit, c'est un livre un peu plus épais, mais franchement, c'est empathique et on suit la trajectoire de cette famille de manière très agréable.
C'est fou comme vous êtes passionné par ces histoires de petits entrepreneurs qui,
ah oui, j'adore.
Qui réussissent. Vous nous aviez fait un portrait incroyable de Alexandre de Paris.
De Paris.
Le coiffeur. Ah oui, mais moi j'adore.
Qui arrive de Pologne, qui part de rien, qui devient une
star. Exactement.
Bon. Grâce à sa femme. Il était créatif, mais c'est sa femme qui en a fait un business. Pardon, j'avais beaucoup équipé.
C'est souvent, mais...
Mais oui, c'est toujours ça. C'est toujours ça.
Là aussi, la femme de Joseph Gibert, elle joue un rôle important. Oui.
Allez, Dorothée Duron, on passe à votre choix estival, votre choix de plage, de rando.
Oui, alors, il y en a deux. Oui, je n'avais pas noté qu'il y avait cette histoire de sac à dos à prendre, parce que pavé sur Winston Churchill, bon, c'est lourd. Hein. Enfin, c'est la bouteille d'eau ou le livre, mais ce n'est pas les deux, parce que c'est un sacré pavé. C'est la biographie de Winston Churchill, mais avec un regard un tout petit peu différent. C'est-à-dire qu'on n'a pas suivi de sa naissance jusqu'à sa mort, on suit plutôt sur un trait de caractère qui est l'imagination. Et on voit la force et la puissance en tant qu'homme politique de Winston Churchill dans son imagination, dans sa créativité.
Alors, ça s'appelle Le pouvoir de l'imagination.
Exactement.
C'est de François Kersaudy.
Voilà, qui est le grand spécialiste. Enfin, il est l'auteur de nombreuses biographies de Gaulle, Churchill. Donc il y a une vraie connaissance et qui raconte. Enfin, il y a quelque chose de truculent quand même chez Winston Churchill, au-delà des bons mots. C'est cette vision, cette capacité à se projeter, cette connaissance de l'histoire et être capable de la remonter pour pouvoir se projeter dans l'avenir, et des phrases mythiques qui vont faire écho avec le deuxième livre auquel j'ai pensé, c'est « On se souvient tous du sang et des larmes ». Enfin, la phrase de Winston Churchill, j'ai rien d'autre à vous proposer que du sang et des larmes. Et donc, de l'autre côté, c'est un peu pour, s'ambiancer avant la présidentielle de l'année prochaine, il y a ce livre qui vient de sortir de Gaspard Ganzer. Donc Gaspard Ganzer, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'est le conseiller communication de François Hollande. Mm. Son livre est absolument génial à lire. Honnêtement, c'est remarquable parce que tout le monde peut le lire au sens où il touche plusieurs générations. Il part d'une idée qui est tout le monde aujourd'hui, ce qui structure le débat politique, c'est les peurs. Et lui dit, en gros, en fait, les peurs, non, c'est pas ça qui va transcender les nations, c'est pas ça qui va transcender les gens, qui va emmener les gens. Il faut de la joie. Alors là, comme ça a l'air assez frais et un petit peu un petit peu léger, mais en fait, derrière ces titres où il parle, il y a un des chapitres qui s'appelle « Les responsables politiques nous gonflent », il y a un côté un peu TikTok dans ces titres, mais derrière, c'est un essai d'une finesse politique absolument remarquable, où il oppose Spinoza à Hobbes en montrant, enfin, philosophiquement, c'est vraiment extrêmement poussé, c'est un vrai truc de lettré, tout en ayant des exemples très concrets qui vont de Pinochet, comment il a été renversé avec cette idée de créer de la joie, comment en Hollande on a le libéralisme joyeux qui est sorti, et le décryptage de la campagne à New York de Mme Dany.
Parfait.
Absolument génial à lire.
Oh bah vous nous avez
et très, très bien écrit.
Vous nous avez convaincu. Elle a parfaitement respecté le contrat Annalisa Cappellini avec oui. Ce livre de Pascal Boniface, La géopolitique, les pieds dans le sable.
Mais oui, vous glissez dans votre cabas de plage parce qu'il est fait pour, c'est le cahier de vacances que nous laisse Pascal Boniface.
D'accord.
Bon, c'est léger, c'est ludique, mais en réalité, il y a toute l'équipe de l'IRIS qui a participé à ce carnet de vacances, donc évidemment, c'est très sérieux. On a vu la place que les enjeux internationaux ont pris ces derniers mois dans l'actualité, donc c'est pourquoi pas l'occasion de faire une petite mise au point des repères historiques, géographique, géopolitique, et il y a de tout. Il y a les corridors économiques stratégiques en Afrique, il y a où en est la guerre des étoiles, la pensée stratégique de Vladimir Poutine qui explique la guerre en Ukraine, tout ça évidemment sous forme de quiz. Donc pourquoi pas d'ailleurs, si vous avez des ados, c'est intéressant à faire avec eux. Je vous rassure, il y a toutes les solutions à la fin, si jamais on a des doutes.
Passionnant. Jean-Marc Daniel, il ose aborder une question, mais dont on n'a vraiment pas envie d'entendre parler. Pendant les vacances, les Français veulent-ils encore travailler ?
Et la question se pose, donc j'invite les lecteurs à lire le livre pour savoir quelle est la réponse.
Absolument.
Alors c'est un livre assez court de Anne de Guigné. Anne de Guigné, c'est une journaliste économique connue du Figaro. Et donc elle se pose la question effectivement par rapport à un discours ambiant qui consiste à dire qu'on ne travaille pas assez, mais de notre côté simultanément, le travail n'est pas assez rémunéré. Donc elle essaie de faire le point de tout ça, et à la fin, elle apporte la réponse. Donc je vous invite à le lire, c'est 96 pages, donc c'est véritablement quelque chose qui se lis très bien, et en plus, indépendamment de mon âge et de ma presbytie, je lis ça sans lunettes, sans difficulté, donc c'est écrit assez gros.
Parfait. Vous avez tous donné vos petits... Oui, c'est à moi maintenant.
Mais oui,
c'est
à
vous.
Il va falloir travailler.
Vous savez, dans ce genre d'émission, est-ce que j'ai pas sauté une ligne? Est-ce que j'en ai pas oublié un?
Non, la question c'est, est-ce qu'Emmanuel Le Chypre veut-il travailler?
Veut-il encore travailler? Oui, je veux encore
au
travailler.
Au moins pour la 500e.
Absolument, au moins jusqu'à la 500e. Après, on verra. Allez, moi j'ai retenu trois livres très différents. J'ai bien aimé le petit opus qui est quasiment une annexe du rapport Cyclope, c'est Philippe Chalmin et Yves Gégourel. Donc, en marge du rapport Cyclope, ils ont demandé finalement à quelques auteurs prestigieux de raconter leur rapport aux matières premières. Et il y a vraiment des textes qui sont extrêmement intéressants, très bien écrits. Hein. Quand je vous fais la liste de ceux qui ont contribué, Nicolas Bavrez, Charles Beck-Bédé, Christelle Bory, Estelle Brachianoff, Sylvie Brunel, Eric Fotorino, David Frossard, il y a Hubert Védrine, Michel-Édouard Leclerc, Christiane Lambière, et puis il y a aussi Eric Orsena. Évidemment, c'est passionnant et c'est assez inattendu. Je ne pouvais pas, amis automobilistes, passer sous silence le livre de Pierre Chasseret, qui est un petit peu la passionnariat de la défense des automobilistes, avec Balance ton plein, quel est le prix de la vie d'un Français. Il rappelle à quel point beaucoup de Français sont dépendants de leur voiture. Je vous lis la petite préface qui m'a fait, que je trouve assez malicieuse. La France n'a plus les moyens de ne pas baisser les taxes sur les carburants. Donc Pierre Chasseret, Balance ton plein chez Fayard, coup de gueule du porte-parole vedette des automobilistes. Et puis un livre que j'ai adoré, c'est pareil, c'est un auteur que Annalisa connaît très bien, Sébastien Abyss, qui est le grand spécialiste finalement aussi des dossiers agricoles. Il sort un bouquin absolument formidable sur le cochon. Ça s'appelle « Tout est enfin bon dans le cochon ». Eh oui, absolument. Longtemps cantonné à son rôle de viande bon marché, le cochon révèle aujourd'hui un potentiel insoupçonné. Sébastien Abyss, il dit le cochon, c'est la tirelire du futur. C'est la tirelire du futur, c'est protéines accessibles, écologie circulaire, solutions médicales. Il y a plein de choses dans son livre totalement passionnante qui nous explique que décidément le cochon est notre meilleur ami. Voilà, et ben écoutez, c'est la fin de cette rubrique. Donc votre sac à dos ou votre sac de plage sont bien chargés. Profitez bien de vos vacances, mais il est temps quand même de se projeter vers la rentrée. Et nous terminons cette librairie de l'été avec la traditionnelle rubrique, donc les livres qu'on attend à la rentrée. Christian Chavagneux, je n'hésite pas à le dire, c'est une des rentrées les plus excitantes de toutes ces dernières années quand on voit la liste des bouquins qui nous attendent. Vous avez retenu trois livres.
Ouais, Riche ensemble de l'économiste Anne-Laure Delatte, ce sera publié par Le Seuil par rapport au discours ambiant que c'est-à-dire il y a trop de dépenses publiques en France et en plus elles sont pas efficaces. Eh bien, on va aller regarder concrètement dans les chiffres, on va se comparer aux autres pays européens et puis on va voir si on dépense vraiment plus que les autres ou et si on est efficace ou pas. Évidemment, la tyrannie du présent, Pierre Rosanvallon au Seuil, quand il y a un livre de Pierre Rosanvallon qui sort,
c'est un événement.
On peut pas passer à côté. Donc là, Pierre Rosanvallon va nous faire l'histoire, une approche historique et politique de pourquoi est-ce que nous-mêmes et nos dirigeants politiques sommes trop concentrés sur le court terme alors que les enjeux de moyen long terme sont très importants. Et puis comme des esclaves, la sociologue Alizée Delpierre, la découverte, Alizée Delpierre nous avait donné un superbe livre sur les gens, les domestiques qui travaillent pour les très riches. Maintenant elle revient sur les gens qui en fait sont même carrément en situation d'esclavage aujourd'hui dans le monde d'aujourd'hui.
Annalisa Cappellini, vous attendez la lettre ouverte à Trump de Romuald Sura.
Oui, de lettre ouverte à Trump d'un Américain de papier. Donc c'est lui, c'est Romuald Sura, qui est donc franco-américain, français de naissance, américain de papier. C'est aussi le directeur de l'Observatoire politique et géostratégique des États-Unis, de l'IRIS. Ça sort chez Point Nemo. C'est très intéressant parce que j'en ai parlé avec lui. Lui, il dit qu'il craint que Donald Trump soit en train de mettre en place un régime autoritaire bâti surtout sur le culte de la personnalité plutôt que sur l'idéologie. Et il dit surtout que le trumpisme va finalement survivre à Donald Trump parce qu'il a mis en place tout un système qui va lui survivre. Ça sera très intéressant, ça sort au mois de septembre, donc on sera à 2 mois des élections de mi-mandat, évidemment, à surveiller. Donc on lira ce que cet Américain de papier a à nous dire.
Allez, moi je vous cite pêle-mêle L'école des illettrés par Madeleine de Gessèche et Albin Michel. Bilan et diagnostic de l'effondrement du niveau en langue des jeunes Français. C'est un plaidoyer pour dire attention, ne laissons pas le laxisme sur la grammaire et l'orthographe se développer. C'est un élément fondamental de notre structuration de pensée. L'économie du désordre mondial. Jean Tirole et Karine van der Straten chez Albin Michel. Les livres de Jean Tirole sont rares, donc on verra bien ce qu'il a à nous dire dans ce livre avec Karine van der Straten. Le pays miraculeux de Baptiste Trouveret chez Albin Michel. Première puissance européenne pendant plus d'un millénaire, patrie de l'art de vivre. La France, désormais convaincue de son déclin, en oublierait-elle les miracles qui ont fait son originalité? Les partis, les politiques économiques à l'épreuve des faits par Xavier Jaravel, Emmanuel Monnet, Mathieu Perveillot et Vincent Ponce. C'est chez Odile Jacob. Ça aussi, ça nous sera utile pour la présidentielle. Et puis alors, deux auteurs que nous attendons avec impatience. La dette publique, c'est Robin des Bois qu'on assassine, écrit par Jean-Marc Daniel. Un nouvel opus, c'est aux éditions Odile Jacob. Et puis Christian Chavagneux n'est pas en reste avec son histoire du capitalisme français. C'est une bande dessinée, Christian, aux arènes. Qui a fait les dessins?
Enzo.
Voilà. Pompidou contre De Gaulle, Quentin Paillet aux éditions Passé Composé, l'histoire mondiale des impérialismes, ça c'est pour Annalisa Cappellini, 19e, 21e siècle, Nicolas Beaupré et Florian Louis, et un livre qui me passionne déjà, Motoriser la ville, une histoire mondiale des déplacements urbains par Julien Demade, c'est au PUF. Jean-Marc Daniel, vous, allez, pareil, on reparle un peu vraie littérature, là.
Oui, absolument, on ne va pas revenir à Paul Bourget ou à Zola. C'est le 100e anniversaire de la naissance de Michel Butor, et à cette occasion, il y a toute une série de textes qui vont paraître sur le nouveau roman, et je recommande, d'ailleurs, il va y avoir une nouvelle édition de La Modification, qui est son livre de référence, qui a eu le prix Renaudot, et je le recommande, d'autant plus que c'est un livre de littérature, mais aussi un livre, d'une certaine façon, d'économie, en tout cas de prise de décision, de stratégie, c'est-à-dire je vais pas raconter l'histoire, je laisse les auditeurs, téléspectateurs lire ce livre, mais c'est quelqu'un qui prend un train à Paris pour aller à Rome, où il doit rejoindre quelqu'un, et pendant tout son parcours, il réfléchit à ce qu'il est en train de faire, pourquoi il a pris sa décision de partir, pourquoi cette décision, il peut la remettre en cause, et donc tout ça, et le livre, comme toujours avec le nouveau roman, a une originalité stylistique, c'est qu'il est écrit à la deuxième personne.
Tout ça pour finir par se barrer à la dernière minute.
Oui. Bon. Ça, normalement, on le découvre si on lit le livre.
C'est pas pour le suspense qu'on le lit. Voilà. Et si on vous manque pendant l'été, puisqu'on va se quitter, si on vous manque pendant l'été, alors en attendant les nouvelles publications de Christian Chavagneux et Jean-Marc Daniel, vous avez toujours l'histoire de l'économie mondiale de Jean-Marc, Redécouvrir les physiocrates, et puis les nouvelles leçons d'histoire économique, ça c'est chez Odile Jacob. Vous avez toujours, moi je l'adore ce livre, Les plus belles histoires de l'escroquerie de Christian. C'est aux éditions du Seuil. Bon, ça commence à dater. Mais enfin, voilà, ça va, c'est vraiment un livre passionnant. Notre ami Julien Damon, Les batailles de la natalité aux éditions de l'Aube, Le petit éloge de la sécu aux presses de Sciences Po. Je crois que je n'ai rien oublié, les amis. Il est temps de vous souhaiter un très bel été, plein de livres, plein de lectures. Et n'oubliez jamais que lire nuit gravement à la bêtise. Et donc, profitez bien de cet été. On se retrouve à la rentrée. Et l'émission de rentrée, traditionnellement, c'est à la ref du MEDEF. Ce sera donc la dernière semaine du mois d'août. Passez de très belles vacances. Et donc, bien évidemment, d'ici là, bonne lecture. Oh.